mardi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Et oui, c'est la première de l'année, dessus de table, émission qui mange le morceau. Bonjour, bienvenue, meilleurs vœux. Si on ne s'est pas encore rencontré à la radio, dessus de table, c'est avec Manuel Mariani, critique gastronomique et influenceur. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe, comment ça va?
Très très bien, j'ai pris des très très bonnes résolutions gastronomiques.
C'est vrai, vous allez me faire un cadeau alors?
Ça a très mal commencé parce que vous m'avez emmené manger et bon.
C'est vrai, ouais. C'était pas terrible.
C'était pas terrible.
Voilà. C'était beaucoup mieux hier, mais j'étais pas avec vous.
C'est ça. Mais on a mal commencé l'année.
Hein. C'est vrai.
Mais on va s'attraper.
Absolument.
Bien, nos invités aujourd'hui, Tania Patchev, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Diététicienne et nutritionniste.
Tout à fait.
À côté de vous, c'est Blandine Vier. Bonjour Blandine.
Bonjour.
C'est une institution, journaliste gastronomique et auteur culinaire prolifique. 135 livres au compteur, et encore, je ne les ai pas tous comptés. Hein.
J'en suis à 134 seulement.
Ah mince, 134. J'exagère toujours, vous savez, Blandine. Vous voyez, on ne prête qu'aux riches. Et ça tombe bien parce que vous êtes en train d'écrire un livre sur la cuisine des restes, dont on parlera aujourd'hui. Le début d'année sont souvent synonymes de bonnes résolutions, et cette année, Manu, il y en a des bonnes résolutions qui s'affichent.
Ah bah oui, on va essayer de voir aujourd'hui comment récupérer un petit peu au niveau physiologique après les fêtes, et puis pendant les fêtes on cuisine beaucoup, on a beaucoup de restes, hein. Alors comment recycler ces restes de façon un peu avec art, hein. Ça, je pense que Blandine a plein de choses à nous dire là-dessus.
Avec gourmandise plutôt qu'avec art.
Oui, bah la gourmandise c'est un art, Blandine, je pense qu'on est d'accord là-dessus, hein. Et on va voir effectivement.
Et puis y a une expression qui dit l'art d'accommoder les restes.
C'est ça, l'art d'accommoder les restes, absolument, parce que c'est un art et parce qu'on peut faire des plats formidables avec les restes. Moi j'ai listé un certain nombre de recettes à base de restes, on en parlera avec Blandine, mais il y a de quoi faire des menus magnifiques uniquement en cuisinant les restes.
Bon, alors cette année, ça part fort. Alors, ça a commencé déjà par quelque chose qu'on ne connaissait pas, décidément, et par un anglicisme, c'est le dry January.
Ah bah oui, Philippe. Alors, le dry January, alors, effectivement, ça, on veut nous imposer des choses. Alors, le dry January, on veut nous faire manger... Le dry January, c'est autre chose.
C'est pas manger, Manu, c'est boire.
J'ai mélangé, oui, c'est ça. Et il y a une autre, il y a beaucoup de signataires, des stars, etc., qui veulent.
Le lundi vert.
En l'espace d'une semaine, ils ont réussi à nous bourrer le mou avec des choses qu'on ne doit pas faire.
Voilà, ni poisson ni viande le lundi. Bah,
ça tombe bien parce que les boucheries et les poissonneries
sont fermées. Absolument, c'est fermé.
C'est totalement idiot ce truc.
C'est fermé, donc. Donc, dans les vraies boucheries, les vraies poissonneries, enfin, quand on trouve du poisson ou de la viande le lundi, en général, c'est que c'est arrivé la semaine d'avant. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a eu des tsunamis en Indonésie, il y a des victimes et tout. Peut-être qu'il vaut mieux qu'ils signent pour qu'on aide ces gens-là plutôt que de mettre leur nez dans notre assiette. Hein, chacun sa gamelle.
Oui, puis cet assistanat permanent, c'est un peu énervant, je trouve.
Oui, puis le côté aussi un peu donneur de leçons, quoi.
Voilà. Et puis, oui, le côté restrictif, c'est-à-dire que c'est toujours des mois sans quelque chose, sans ceci, sans cela.
C'est vrai qu'il n'y a pas de mois avec.
Non. On devrait faire ça.
Mais alors, d'où ça vient, cette question de détox? Il y a 10 ans, on n'en parlait pas du tout. Ça devient un sujet qu'on ressort à chaque début d'année, en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu un excès de faits. Est-ce que, finalement, la détox, l'organisme, en a réellement besoin ou pas du tout?
Alors, je vais peut-être pas plaire à tout le monde en vous expliquant ma réponse. Clairement, le concept de détox est un concept qui a été... quelque chose de très commercial, de très marketing, et en réalité, notre corps se détoxifie en permanence. On a la chance d'avoir des organes qui nous permettent de faire ça 24 heures sur 24,
C'est l'un des rôles principaux du foie, c'est ça?
Le foie et
entre
nos
autres.
Reins.
Oui, et les reins, oui.
On a aussi un petit peu les poumons pour le côté respiratoire, mais le foie et nos reins nous détoxifient en permanence. Donc, on se détoxifie gratuitement 24 heures sur 24 sans faire aucun effort.
Ce qui veut dire que finalement, tous les conseils détox qu'on nous donne, c'est du business, c'est ça que vous voulez dire?
Honnêtement, oui.
C'est pour vendre des gélules, c'est ça?
Des gélules, des jus, des mélanges, des tisanes, des régimes miracles. J'ai trouvé plein de choses, des thés détox, des tisanes détox, des formules de petites fioles à boire chaque jour, etc. Quand on n'a plus faim, on arrête de manger, on boit de l'eau et puis voilà.
Ouais, détox est devenu un plus produit marketing, c'est ça
Oui,
Et puis, est-ce que le terme n'est pas bien choisi? Parce que détox,
ça plaît à tout le monde, finalement.
Ça fait penser à intoxication. Mmh. Et donc, les gens se disent, ah, il faut que...
Je dois me purifier. Je l'entends très souvent.
Mais si on mange à sa faim et si on se fait plaisir en mangeant avec uniquement des bons produits, des produits sains, a priori, on n'a pas besoin de se désintoxiquer.
Tout à fait. Et c'est une meilleure intoxication, on va dire, de manger des bonnes choses plutôt que de partir sur quelque chose de très négatif, parce que se détoxifier, c'est quand même très négatif.
Bon, ça va. Bon, Blandine et moi, on n'est pas intoxiqués, a priori, alors. Parce qu'on mange
des bonnes choses. Mais alors, c'est vrai aussi qu'au moment des fêtes, on a tendance à manger trop, plus que d'habitude, et qu'on a besoin après, mais on a aussi un organe qui s'appelle le cerveau. Et autrefois, pour tout le monde, Valentine.
Ça dépend à quel moment de la soirée.
Oui, c'est ça.
Mais donc, il y avait autrefois une expression qui valait toutes les détox du monde, c'est le bon sens.
Tout à fait.
Le bon sens. Quand on a trop mangé un jour, c'est sûr que remanger trop le lendemain, c'est pas raisonnable.
Oui, on fait une petite diète le lendemain. Mais d'ailleurs, c'était à la mode aussi à une époque, les diètes.
Mais pas forcément une diète, mais manger en tout cas plus léger. Et bon, ça me paraît tellement une évidence que je comprends pas pourquoi on a besoin d'abord qu'on nous le rappelle. Et puis, éventuellement de prolonger ça dans sa conduite alimentaire.
Alors, il y a un problème, parce que ce mot, quand même, c'est bien imposé, le mot détox, et il y a un problème de définition. Tania, qu'est-ce qu'on entend par détox, quand on parle de détoxifier l'organisme?
Alors, en termes médicaux, détoxifier, c'est vraiment dans un contexte de pathologie, où on a un toxique dans notre corps que l'on doit éliminer. Je pense notamment à certaines maladies du sang. On doit chélater certaines molécules pour les éliminer.
Donc, chélater,
ça... Excusez-moi. Chélater, c'est...
éradiquer.
Piéger. Piéger pour que ça puisse sortir. Voilà. Et donc, ce mot médical a été détourné de son origine.
C'est-à-dire que ça, le mot médical existe.
Oui.
Donc, détoxifier.
Bien sûr.
Voilà. Mais aujourd'hui, il a été
utilisé pour d'autres choses, pour des choses qui ne rentrent pas dans ce contexte, on va dire, de pathologie. Quand je vous parlais du foie et des reins tout à l'heure, quand on a un réel problème, on ne serait pas là à discuter ensemble, on serait à l'hôpital. Et là, on est vraiment dans un contexte de pathologie. Aujourd'hui, le mot détox, parce que c'est vraiment détox, c'est même plus détoxification, on a oublié tout le reste.
Non, c'est vrai, c'est la détox, c'est imposé.
C'est devenu un mot à lui seul.
Un néologisme.
Voilà, tout à fait. Et du coup, il est utilisé à mauvais escient, tout simplement, et beaucoup trop largement. Et on s'éloigne complètement de sa signification première.
Et quelles sont les fausses promesses, donc vous qui êtes une professionnelle, de ces cures détox?
Alors, les détox, les cures détox, tout ce qu'on peut trouver dans le commerce, vous promettent souvent, soit c'est noté en grandes lettres, soit c'est sous-titré, mais c'est de la perte de poids. Donc, effectivement, comme disait Blandine tout à l'heure, pendant les fêtes, on fait des excès, que ce soit des excès... on mange trop, on boit trop, etc. Ces détox qui sortent souvent en début d'année, hein, comme par hasard, un peu comme les régimes au mois d'avril pour préparer les grandes vacances, vont vous promettre monts et merveilles, vous avez fait des excès, donc on va vous, entre guillemets, vous purifier, vous nettoyer. Je vois aussi souvent nettoyer.
Ça
d'ailleurs,
marche bien, ça, nettoyer de l'intérieur.
Oui, bien sûr. Mais
ça
bien
plaît
sûr.
Aux gens, nettoyer. D'ailleurs, Blandine, parce que Tania parle d'excès, en fait, pendant les fêtes, les gens ne mangent pas forcément plus, mais il y a des gens qui mangent, c'est-à-dire qui mangent raisonnablement, mais qui mangent plus riche quand même.
Voilà, plus riche et plus gras. Le foie gras est
Les recettes
le
contiennent
exemple.
Plus de beurre,
voilà,
plus
de sauce.
Ouais.
Et...
plus de sauce, effectivement. Oui.
Et puis il y a aussi de l'excès en quantité.
Il y a du sucre, oui. Les bûches, les gâteaux, les chocolats, les bonbons.
Oui.
Oh, je vois Tania sourire quand on parle de bonbons. Je pense qu'elle en a mangé 2-3 pendant les fêtes.
Beaucoup de chocolat.
Beaucoup de chocolat.
Mais du bon chocolat.
Ah bah oui.
Ce n'est pas grave.
Donc on nous promet de nous nettoyer de l'intérieur, déjà, Tania.
Oui, alors on nous promet de se nettoyer de l'intérieur. On nous promet la perte des kilos qui ont été pris pendant cette période d'excès. Et puis on nous promet une meilleure santé, tout simplement. Ce sont honnêtement des promesses qui ne sont pas justifiées au regard des choses proposées, des cures proposées ou des alternatives proposées.
On peut prendre un exemple de ce qui, franchement, est selon vous, une fausse promesse marketing.
Alors, moi, celle que j'ai en tête, là, maintenant, là, c'est vraiment, vous savez, les cures de jus. Les jus de légumes, les jus de mélange de légumes et de fruits, etc. La seule chose positive, c'est que ça va vous permettre de vous hydrater, puisque vous buvez des choses et on a vraiment besoin de s'hydrater de manière quotidienne et correctement. Par contre, c'est un petit peu le principe des monodiètes, c'est-à-dire que non seulement on va manger du liquide uniquement, donc on va pas être rassasié, on risque d'avoir faim entre ces moments de prise de petites fioles, et donc quand on a faim, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller vers des choses qui sont pas très intéressantes pour nous. Et puis, nous, on n'est pas fait pour boire. On a des dents. On peut mâcher, faire des cures pendant X jours sans aucun...
Vous voulez dire qu'on n'est pas fait pour être végane, Tania ?
Les véganes peuvent mâcher. Ah bon. mais voilà, c'est pas quelque chose qui va être adapté à notre physiologie. Donc, comme disait Blandine aussi tout à l'heure, très justement, quand on a fait des excès, le bon sens, tout simplement... c'est de lever le pied. Je suis la première à le savoir. Hier soir, j'ai fait un petit peu d'excès. Bah, ce matin, j'avais pas faim. Donc, je vais pas m'obliger à manger un petit déjeuner ou un déjeuner. Je vais attendre d'avoir faim pour repasser à table et pour avoir plaisir à manger. Quand on a trop mangé et qu'on a dépassé un petit peu toutes nos limites ou trop bu aussi.
Ça déborde.
Voilà, ça déborde et on a aucun plaisir à reprendre une fourchette ou une cuillère.
Alors, est-ce que manger à sa faim et manger quand on a faim, c'est la même chose du coup?
Oui. L'idée, c'est de s'écouter. C'est-à-dire que si j'ai faim, je vais manger. Si je n'ai pas faim, et que je suis en bonne santé, que je ne suis pas obligée de manger pour prendre un médicament, etc., je vais attendre d'avoir faim pour passer à table. Ça paraît trivial comme doctrine.
Bah oui, moi je ne sais pas comment ça fonctionnerait pour moi. Moi, j'ai faim tout le temps. J'ai pas faim jusqu'à 11h30, mais à partir de 11h30, moi, je peux manger toute la journée. Hein.
Alors, on peut travailler là-dessus. Si
on me paye pour ça, même, parfois. Alors.
Mais c'est vrai aussi que, quelquefois, la gourmandise est plus forte que la faim.
Oui.
Notamment en période de fête où il y a plein de choses inhabituelles quand même sur la table.
À disposition.
Et voilà, on a pioché un marron glacé, c'est bien. Mais on a vite fait aussi d'en consommer 3 ou 4.
Est-ce que vous insinuez, voilà, Blandine, que je masque ma gourmandise par des impératifs professionnels?
Oui, bah, sans doute. Je suis un peu dans le même cas.
C'est vrai.
Donc, en tout cas, le nettoyage, tout ça, l'eau, ça suffit.
Alors oui, l'eau, ça suffit. Notre corps est composé à plus de 60% d'eau. Donc, on a besoin de boire énormément, alors pas énormément en grande quantité, mais on a besoin de boire régulièrement au cours de la journée. Et s'hydrater, c'est une priorité pour notre organisme. Donc, si on n'a pas faim, le minimum, c'est de boire.
Alors,
de l'eau, des tisanes ou un bouillon parce qu'on n'a vraiment pas envie de manger autre chose, mais ne serait-ce que de l'eau.
Parce que l'eau draine en fait les toxines, c'est ça.
Tu es encore dans le principe de la détox. Oui.
Non, je sais pas, c'est une question.
On est intoxiqué par les messages qu'on nous envoie.
Oui, en fait, les gens sont perdus. Il y a une espèce de cacophonie. Alors avant, c'était de la cacophonie.
Ah oui, on est perdu. On lit tellement de choses partout, on est perdu. Alors.
Tout à fait. Donc l'idée, c'est de revenir encore une fois le bon sens, les choses simples. Je n'ai pas faim, je ne vais pas me forcer à manger. C'est pas parce que j'ai entendu 50 fois ou j'ai lu 50 fois dans un magazine, il faut manger un gros petit-déj, un déjeuner moyen et un dîner léger.
C'est tout le contraire de ce que je fais. Oui.
Ça, ce n'est pas vrai pour l'ensemble de la population. C'est une généralité qu'il faut adapter à chaque personne. Donc, je n'ai pas faim, je n'ai pas de contraintes, je ne mange pas, j'attends d'avoir faim. Par contre, effectivement, en attendant, je m'hydrate.
Alors, Tania, vous parliez justement de l'eau comme de l'aliment, pas miracle, mais enfin de la base.
Indispensable.
De la base, l'aliment indispensable. Mmh. L'eau, c'est la vie. Je sais pas si c'est un truc de grand-mère, un truc de gourou, un truc de charlatan, mais j'ai souvent lu le matin un verre d'eau très fraîche, voire glacée. Ça met en route un petit peu le système digestif, etc. Mais moi, le côté chaud-froid un peu au réveil.
Moi, j'ai précisé ce que vous dites, Manu. Il y en a qui disent que ça fait aller à la selle.
Alors.
Ça met en route le système digestif.
Oui, mais c'est bien, mais faut être plus technique, Manu.
faut être précis. Alors, le verre d'eau le matin au réveil est indispensable parce que on a dormi normalement environ 8 heures, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais on n'a pas bu du tout pendant cette période-là, donc le matin, quand on se réveille, on est déshydraté. Donc le verre d'eau le matin est indispensable, effectivement, pour se réhydrater, pour remettre un petit peu le métabolisme en route, pardon. Par contre, froid, je vous le déconseille, parce que l'estomac n'aime pas le trop chaud ou le trop froid, donc ça va le déranger. De l'eau à température ambiante, c'est tout à fait conseillé.
Avec un peu de jus de citron dedans ?
Alors, le jus de citron, pourquoi pas ? C'est un, alors, même s'il est acide au goût, le jus de citron est alcalinisant.
Oui, il paraît qu'il est plus alcalin que l'orange, qui pourtant, elle, est plus sucrée.
Oui, le citron est vraiment très intéressant.
Je parle au niveau du pH. Oui,
oui, tout à fait. Le seul bémol, c'est que je déconseille le petit jus de citron mélangé à de l'eau, hein, bien sûr, dilué.
Ah oui, tiède en plus. Oui, tiède.
Non, température ambiante.
Il y a des sites internet où ils disent il faut faire trois citrons.
Mais on trouve de tout hein, sur
trois
internet.
Trois citrons tièdes. Il suggère même de les faire bouillir, de faire bouillir le citron entier dans l'eau.
Non, ça n'a aucun intérêt.
Sans préciser qu'il faut des citrons non traités. Donc là, on se prend un bon coup de pesticides.
Voilà, de la chimie en plus. Donc, c'est pas du tout intéressant. Non, soit un verre d'eau nature, soit un verre d'eau dans lequel on a un petit peu pressé un citron. Par contre, on ne fait pas ça si on a déjà auparavant des acidités, des douleurs d'estomac. Là, on va être dans la contre-indication. Mais si on est en bonne santé et que tout va bien, il n'y a aucun problème. On le fait juste quelques jours. Pas trois semaines, trois mois, comme j'ai pu l'entendre, juste quelques jours, c'est largement suffisant.
Et contrairement à ce que croient beaucoup de jeunes femmes, notamment, parce que bon.
Et ça ne fait pas maigrir.
Beaucoup d'amis de ma fille, c'est ce que ma fille me disait pendant une période, c'était la mode, se gavaient de jus de citron, même parfois buvaient du vinaigre en pensant que ça faisait maigrir. On est bien d'accord, consommer du citron en quantité ou quelque chose d'acide en quantité, ça ne fait pas maigrir.
Non, ça ne fait pas maigrir et ça ne fait pas du bien à long terme.
D'accord, mais pourtant, le citron, c'est la star des détox.
Oui, parce qu'il est un petit peu acide, on a le côté image inconsciente que ça va nettoyer. Voilà, tout simplement. Par contre, effectivement, le côté, si on veut vraiment parler de détox, c'est qu'il va être alcalinisant. Et quand on a fait des excès, on a mangé trop de choses qui sont plutôt acidifiantes. Et donc, on a besoin de rééquilibrer ça dans notre organisme.
Donc on presse un petit peu dans un verre d'eau pendant quelques jours.
Mais tous les légumes sont alcalinisants. Donc, il suffit de se faire une bonne assiette de légumes qui soit crue, cuit. On n'est pas obligé de passer par la case du citron.
Les fausses promesses des cures détox, on en parle ce matin, et également de la cuisine des restes. Si vous avez des trucs, vous pouvez les partager avec nous au standard 01 53 48 3000, ou des questions à poser d'ailleurs, hein, 01 53 48 3000.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Et nous cuisinons les restes pour la première émission de l'année avec Manuel Mariani, Tania Patchev qui est avec nous, qui est diététicienne et nutritionniste, et puis Blandine Vier, journaliste gastronomique et auteur culinaire, et vous préparez justement un livre sur la cuisine des restes, Manu.
À moi non, mais Blandine.
Non. Blandine, oui. Je me dirige vers vous et je vous donne la parole, Manim.
Il est en cours, oui.
Absolument, absolument. Quand j'ai proposé à Blandine de venir parler de la cuisine des restes, elle m'a dit ça tombe bien, je suis en plein dedans. En plein dedans, et on est en plein dans la saison où effectivement on peut cuisiner les restes, Blandine, parce qu'on a beaucoup cuisiné là, avec les fêtes de fin d'année. Donc on a des restes.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on fait avec les restes? Restes, c'est pas forcément peau de chagrin, je veux dire.
Non, pas du tout. Alors. D'une part, même dans tous mes articles, souvent, je donne des pistes pour cuisiner les restes, mais je trouve que c'est la vraie créativité. C'est-à-dire que c'est facile d'être créatif quand on est un chef et qu'on peut prendre absolument toutes les denrées possibles, chères ou pas chères, mais en fait, c'est la cuisine des femmes.
Ça impose d'être imaginatif.
Absolument, parce que notre histoire, c'est quand même un pays rural, comme l'Italie, par exemple, où les mamas aussi sont très créatives, et l'objectif, c'est de nourrir sa famille. Et quand on vit en autarcie, quand on est à la campagne, etc., bon, on peut pas, déjà, il y a pas forcément les commerçants dans les villages, etc. Le mieux, c'est de prévoir des repas substantiels et de cuisiner les restes sur plusieurs jours. Et sans faire manger évidemment la même chose tous les jours à sa famille. Et ça, je trouve que c'est vraiment la créativité, la vraie créativité, et que c'est passionnant.
Donc ça pousse à être imaginatif, et puis en plus ça pousse à varier les repas.
À varier les repas, et c'est surtout anti-gaspillage aussi.
Oui, absolument.
Dans l'air du temps.
Donc, c'est un atout
On parlait pendant la pause de cette mode, par exemple, de cuisiner les épluchures.
Oui, alors ça a toujours existé, j'ai envie de dire, parce que déjà, autrefois, même si c'était pas nous qui les mangions, c'était les cochons.
Oui, déjà.
Parce qu'il n'y avait pas de détergent, on faisait pas la vaisselle avec tout ça. Donc même les eaux grasses et tout, ça nourrissait.
Rien ne se perdait, en fait.
Sinon, ouais. Les humains, au moins les animaux. Mais c'est vrai aussi, quand on a des beaux légumes, bon, on peut les peler si on fait une recette où ça a besoin d'être pelé, mais effectivement.
Ou s'ils sont pas bio, c'est-à-dire qu'ils sont avec des produits chimiques dessus.
Des pesticides.
Et là, auquel cas, on mange pas les épluchures, on est d'accord? Parce que laver, ça suffit pas quand il y a des pesticides.
Le lavage n'élimine pas les produits chimiques, hein. Il faut vraiment éplucher.
Hein. Ouais.
Il faut éplucher. Et même quelquefois, dans le cas des pommes, on avait vu ça une fois. Ça
absolument, oui. Il faut enlever 1,5 cm d'épaisseur en dessous de la peau pour enlever tous les pesticides. Donc, la pomme bio.
Il reste pas grand chose.
Là, oui, c'est ça. Il reste le tronc. On mange le tronc. Il n'y a que le trognon qui est bio.
Et donc, on peut effectivement recycler comme ça. Un tas d'aliments, et c'est pas péjoratif du tout, au contraire, et on peut le faire de manière extrêmement gourmande.
Mais il y a même des plats emblématiques de la cuisine française, Blandine, qui sont en fait à la base des recyclages de restes. Je pense notamment, tout le monde connaît, le hachis parmentier. C'est un recyclage de pommes de terre, de viande, d'oignons, de pot-au-feu.
Voilà, de pot-au-feu. Voilà, on recycle pas les oignons, Manu. À la base, c'est la viande qu'on recycle dans le hachis parmentier.
Non mais quand dans une salade par exemple vous mettez vous voulez juste des belles tranches d'oignons, hein, des rouelles d'oignons comme on dit, souvent vous gardez le talon avec, vous le mettez dans un bouillon
ou oui.
vous pouvez le mixer avec la viande pour faire un
ce que je veux dire, c'est que dans le hachis parmentier, c'est la viande que vous recyclez.
Ah, évidemment, hein. Mais on peut aussi recycler le poisson, des légumes, etc. Dans le hachis parmentier, tout se recycle, hein.
Oui, alors...
Quand on modernise le hachis parmentier,
oui,
après.
Oui, on peut décliner, disons, de plein de façons et avec plein d'aliments. Et on peut aussi, pour la purée, ce n'est pas forcément de la pomme de terre, ça peut être du potimarron, ça peut être des châtaignes, ça peut être
tout à fait, oui, oui.
Du céleri rave.
Des légumes verts, hein, purée, oui. Haricots verts, petits pois, on recycle ces restes de haricots verts, petits pois.
Saison.
Oui. En saison, bien sûr, oui, en saison. En saison, mais je le dis tellement à l'antenne que les auditeurs n'ont plus besoin que je leur précise en général. Mais alors, vous parliez du pot-au-feu, Blandine, un plat que j'adore, et je sais que vous l'aimez beaucoup aussi, qu'on fait avec des restes de pot-au-feu, c'est le bœuf miroton.
Ah, bif, j'adore ça.
Alors, miroton ou mironton? Je posais la question avec Philippe.
Ronton. Tout le monde dit mironton, mais en fait, c'est un dérapage de langage, c'est miroton.
D'accord.
Et pourquoi miroton, quoi? C'est l'inventeur, c'est quoi?
Je ne sais pas.
Moi,
il y a un monsieur Miroton.
Non, moi, je crois que c'est à cause de la chanson « Mabrouk s'en va en guerre » parce qu'on dit « Mironton, Mirontaine ».
Oui, enfin, oui.
Et c'est pour ça qu'il y a eu une déviance.
Mais là, j'ai un petit trou de mémoire.
Voilà, si quelqu'un peut nous dire pourquoi on dit « bœuf Miroton ».
Miroton plutôt que Mironton, ouais, effectivement. Et oui, donc les restes
de poteaux. Parce que tout le monde ne sait pas ce que
c'est. Oui, alors, Blandine, bœuf Miroton.
Le bœuf Miroton, c'est de tailler les restes du bœuf en lamelles ou en petits cubes, si on préfère. De les faire revenir à la poêle avec des oignons. Et en fin de cuisson, on verse un petit filet de vinaigre.
Voilà, qui acidifie.
Voilà. Et c'est délicieux.
Voilà, et ça se mange avec des pommes de terre.
On laisse réduire, hein, ça doit être. Alors, certains le farinent aussi un petit peu pour que la sauce réduise un petit peu avec le vinaigre.
Oui, je sais pas.
C'est vrai qu'il y a plusieurs versions. Il y a ceux qui mettent les carottes du pot-au-feu aussi, s'il en reste.
Bien sûr. Ou on les servir à part, aussi en purée, par exemple.
Alors, moi, je fais une version, Blandine, qui n'est pas super académique, mais que j'adore. C'est que, comme on a aussi du pain à recycler, donc idem du recyclage, moi, je fais de la chapelure avec du pain. Et je vais gratiner mon bœuf miroton au four.
C'est la vraie chapelure.
Oui, la vraie chapelure. Et le bœuf miroton gratiné, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà essayé aussi, Blandine, parce que je sais que ça se fait pas mal.
Oui, oui. Bah,
ça, c'est une version que j'adore. Alors, avec des restes de bœuf, quel autre je pense notamment au bœuf stroganoff, enfin voilà, il y a des salades.
On peut faire des boulettes. On peut faire effectivement ce qu'on appelle la salade bouchère. C'est-à-dire, c'est pareil, couper les restes en dés et puis les mettre en salade qu'avec des herbes.
Oui, avec des herbes, un petit peu d'échalotes aussi, c'est sympa.
Oui, enfin,
ouais.
Aromates.
Quelques aromates, oui.
Voilà, oignons ou échalotes et puis des herbes, c'est délicieux.
C'est-à-dire qu'il n'y a que la viande et les herbes, là?
Là, oui.
D'accord. Mais
il peut y avoir un accompagnement à côté. Hein. Bon, on peut faire des boulettes. Hein. Ça, c'est
oui, alors, les boulettes, quand on les fait avec des restes de viande cuite, comment on fait pour qu'elles ne soient pas sèches, Blandine?
Mais parce qu'il ne faut pas mettre que ça. Il faut mettre un petit peu de mie de pain qu'on peut tremper soit avec du lait, soit avec du bouillon.
D'accord.
Il faut mettre un œuf pour lier.
Ok. Tout entier ou juste le jaune? Non,
alors,
l'œuf
après,
entier.
Ça dépend de la quantité, mais en général, un œuf entier, oui, ça lie. Bon, on peut rajouter après des épices et tout ce qu'on veut. Et alors, un truc pour pas que les boulettes se défassent à la cuisson, c'est de les rouler dans du blanc d'œuf.
Ah, d'accord.
Avant de les faire cuire. Et comme ça, surtout si on les fait frire, ça leur évite de se déliter.
Alors, j'avais vu un truc de cuisinier dans une masterclass. Je ne me souviens pas du cuisinier, mais alors il expliquait, il doit y avoir une explication chimique, c'était pour que les boulettes se tiennent, il mettait un petit peu d'eau gazeuse dedans, avec des grosses bulles. Genre
oui,
plutôt genre Perrier,
ça,
hein,
aussi,
pas des fines
dans
bulles.
Dans la pâte à frire, pour la tempura, des trucs comme ça, oui.
Et il paraît que ça permet déjà d'hydrater un petit peu, donc d'être moins sec et de bien tenir les boulettes. Donc ça, j'ai essayé, en plus, ça marche.
Oui, donc, ça marche. Moi, je le fais plutôt pour la pâte à frire, mais oui, ça marche.
On sait, Blandine, ce qui fait que ça permet à la boulette de se tenir.
Je ne suis pas hervétiste. Donc, la physique et la chimie, non.
Bon, on posera la question
même
à
hervétiste. Même
si la
cuisine, effectivement, c'est beaucoup. Et de la physique et de la chimie,
vrai,
surtout.
C'est vrai.
Et dans les boulettes, on peut également mettre des légumes. Hein. Faut pas hésiter. On n'est pas obligé de mettre que de la viande. On peut aussi mettre des légumes. En plus, ça donne des petits goûts vraiment sympas.
Voilà, là, c'est la diététicienne qui veut nous rééquilibrer, Blandine.
Oui, on peut aussi manger les légumes à côté.
Tout à
c'est
fait.
Ça.
Il ouais. Faut pas hésiter. On peut aussi tout mixer et faire que des boulettes et on se régalera tout autant.
Et vous pensez à quels légumes? Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien, alliance légumes et viande en boulettes?
Des légumes verts, là par exemple en ce moment on a des blettes, on peut mettre des épinards, qu'est-ce qu'on peut faire, le potiron aussi, un potiron qui soit un peu ferme, hein, pas un potiron qui
ça
va se
déliter,
ouais.
le potimarron,
ouais. Tout ça marche très bien, hein, effectivement.
Oui, alors il y a des restes qu'on a souvent aussi dans le frigo et qu'on sait jamais comment cuisiner, donc généralement on les jette, quand il nous reste des petites fins de fromage... Pas forcément que les croûtes, mais disons que je sais pas, moi j'aime bien acheter mes fromages entiers, y compris les mentales que je rate moi-même.
On peut les faire fondre. Moi,
voilà,
je sais que je fais fondre
une tarte au fromage,
les croûtes de parmesan, les crêpes de fourme d'Ambert. Ça fait des sauces extrêmement bonnes.
On fait une bonne sauce au fromage pour les pâtes.
Un risotto, voilà. Tout à fait.
Oui, donc ça, fromage également, le pain perdu.
Alors, justement, le fromage, pendant les fêtes, souvent, on achète plus de fromage que d'habitude parce qu'on présente un plateau. Voilà, on peut utiliser, on peut faire des briques, on peut faire plein de choses.
Est-ce que les fromages, quand on a beaucoup de fromages différents, si on mixe tout, est-ce que ça va forcément aller ensemble ou il faut éviter de mélanger le chèvre, le lait de vache, etc., Blandine?
Alors, on peut faire même des terrines comme ça de fromage. Si c'est de la boulette d'avenne, je déconseille, mais sinon, en principe, tout fonctionne à peu près.
Mais qu'est-ce que vous appelez une terrine de fromage?
C'est justement hacher ou râper tous les fromages, les mélanger, ajouter ce qu'on appelle un appareil en cuisine, donc d'œufs et de crème, par exemple, et puis faire cuire au bain-marie, au four. Et ça, avec une salade verte, c'est épatant.
Oui, pas avec des frites, hein, parce que c'est pas light. Hein.
Pourquoi pas,
si on en a envie.
Notre appétit.
Une fois de temps en temps, alors.
Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça doit être super bon. Mais donc crème, fromage.
Oui, œuf.
Et œuf, d'accord. Oui. Ok, ça donne quelque chose de mousseux ou c'est plutôt compact?
Alors, ça dépend un peu des fromages.
D'accord. Hein,
il faut équilibrer en fonction. Si vous prenez que du comté et de la mimolette, ça n'aura pas la même texture que si c'est du camembert et de l'époisse.
Quoi. Parce que tous les fromages n'ont pas le même taux de matière grasse.
Mais c'est justement bien d'équilibrer moitié-moitié.
D'accord. Alors, une autre chose aussi à laquelle on ne pense pas souvent, mais moi, quand j'ai des restes de pain, j'adore faire du pain perdu. D'où vient le pain perdu? Ça, c'est vraiment une recette, c'est vraiment de la cuisine de reste.
Alors, on peut le faire avec du pain, et en période festive, on peut le faire avec des restes de panettone, de brioche, et même demain, c'est l'épiphanie, avec les gâteaux gourmands, les brioches, les gâteaux des rois. Voilà ce qu'on appelle les gâteaux des rois.
C'est-à-dire la version qui n'est pas dans le nord de la France.
Voilà,
qui est plus
couronne,
dans le sud.
Qu'on appelle la couronne des rois aussi dans certaines régions. Oui.
Voilà, c'est ça, la couronne ou le gâteau des rois. On peut faire du pain perdu si on en a trop ou si on déjeune pas le matin. On peut faire ça au goûter, par exemple. Et les enfants adorent autant que plein de cochonneries qu'on a tendance à leur donner.
Ouais, en deux mots, justement, pour les auditeurs, comment on fait un pain perdu rapidement, sans rentrer dans le détail des ingrédients, mais comment on fait un pain perdu avec il faut du pain rassis, c'est ça?
Alors, c'est mieux que ce soit rassis parce que ça se tient mieux. Bon, il faut humecter avec un peu de lait, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça se désagrège. Ensuite, il faut passer dans les œufs battus.
On peut ne pas sucrer. Oui, c'est la brioche, on ne va pas sucrer, par exemple.
Peut-être pas nécessaire.
Voilà, ou le pastis landais, ça c'est magnifique en panette.
Très bon.
Et après, on fait cuire à la poêle dans un peu de beurre, en retournant, et on évite de manger la sauce.
Voilà. Oui, qui n'est pas de la sauce, qui est du beurre fondu.
Oui,
quoi,
oui.
Hein.
Mais
on évite que le beurre noircisse.
Oui, aussi, oui. Qu'est-ce qu'on fait pour que le beurre noircisse pas, on met un petit peu d'huile avec Blandine.
On peut mettre un petit peu d'huile,
Ou alors on utilise du beurre clarifié.
Oui, alors le beurre clarifié, oui, c'est le beurre dont on a enlevé le petit lait, hein, c'est
ça. Caséine,
Il reste que le gras, en fait.
Que le gras, 100% gras, c'est vrai.
Oui.
Parce que le gras, c'est le goût.
Le gras, c'est la vie.
Il y avait un gâteau qui se faisait, qui est peut-être moins à la mode, c'est le diplomate.
Ah, j'adore ça. Et oui,
c'est dommage, parce que le diplomate, c'était vraiment une institution.
Mais alors, on peut effectivement
faire... Alors, le diplomate, c'est quoi la base du diplomate, hein?
Alors, ce sont justement des restes de brioche, le plus souvent, qu'on fait comme une charlotte. En fait, ça se prépare exactement comme une charlotte. Donc, c'est toujours un peu la même base, hein, mélange à l'intérieur de lait, d'œufs battus, de sucre. Et on fait des couches comme une charlotte. C'est comme une charlotte. Donc de ce pain, on imbibe avec la préparation. On peut ajouter des raisins secs, des fruits confits, des abricots secs, et on fait cuire aussi au bain-marie, au four. Et c'est un entremets, c'est vrai,
c'est génial, très peu cher, c'est passé de mode aujourd'hui. C'est dommage, il faut réhabiliter le diplomate.
Ah, il faut réhabiliter le fait maison, en fait. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps à faire, mais faire les courses au supermarché aussi, ça prend du temps. Donc,
Moi, j'ai une question rapide avant la pause, Blandine. J'ai un souvenir d'école hôtelière où on apprenait à faire le pudding diplomate. Est-ce que c'est différent du diplomate?
Oui.
Ou est-ce que c'est la même chose sous un autre nom?
Non, parce que c'est... le pudding diplomate, c'est solide, en fait. C'est pas
d'accord.
un entremets qui va être mou. C'est que du pain. Hein. C'est que du pain, alors qui est quand même trempé dans le lait et qui est un petit peu lié. Et vous savez, chez les... je ne sais pas si ça se trouve encore tellement chez les pâtissiers. C'est brun. Une fois que c'est cuit, c'est brun. Et pareil, on peut même rajouter du cacao en poudre dedans, comme on fait en Suisse italienne, par exemple. Et on peut rajouter des raisins. Et bien sûr, dans tout ça, si on aime, on peut rajouter un petit trait d'alcool aussi. Hein?
Pour ceux qui consomment de l'alcool, Blandine, bien sûr.
Évidemment.
Avec modération, Blandine.
Avec modération, quoi qu'il arrive.
En plus. Bien, on va continuer à cuisiner les restes et on va faire le vrai faux des régimes détox que Manu a déniché pour vous si vous voulez intervenir, si vous avez peut-être, vous, des trucs pour cuisiner les restes.
Ah, je vais vous faire perdre des kilos, Philippe.
48 3000, 01 53 48 3000.
Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Et oui, l'émission qui mange le morceau, c'est le week-end, le samedi jusqu'à 13h en direct avec Manuel Mariani, critique gastronomique et influenceur. Blandine Vier est là, journaliste gastronomique et auteur culinaire prolifique, 134 livres, hein, puisqu'on a le chiffre officiel qui est tombé aujourd'hui.
On a compté pendant la pause.
Et puis Tania Patchef est là également, diététicienne nutritionniste. On parle de la cuisine des restes. Et vous, Tania, vous préférez une autre expression?
Alors oui, moi je l'appelle la cuisine en tiroir, mais c'est exactement le même principe que...
C'est-à-dire, qu'est-ce que...
C'est-à-dire, on achète une pièce, que ce soit de viande ou de poisson, par exemple un rôti qu'on va acheter le dimanche au marché en famille, on va le faire rôtir le dimanche midi, et puis on va le décliner tout au long de la semaine en faisant du bouillon avec la carcasse, en avec les morceaux qu'on n'a pas, enfin qui restent, la peau on peut la faire dorer au four et faire des chips de peau. On va faire un bouillon, donc effectivement qui va nous servir à faire un risotto, à faire cuire des légumes, à faire cuire des pâtes, à se faire tout simplement le soir si on n'a pas très faim un petit bouillon de légumes avec des petites pâtes type vermicelle ou les pâtes alphabet pour les enfants. Et puis tout au long de la semaine, on peut se faire des lasagnes avec les morceaux qui vont rester. Il y a plein de gens, par exemple, qui n'aiment pas manger les tout petits morceaux qui sont coincés au coin des ailes.
C'est le meilleur.
Il y en a qui n'aiment pas. Alors on va les dépiauter, on va bien éplucher, dépiauter la carcasse, aller fouiller avec ses doigts les petits
abattis.
Exactement. On va utiliser aussi les abats. On peut se faire effectivement un flan ou un, moi j'appelle ça un cake, mais c'est pas vraiment un cake, mais avec les foies, les gésiers, etc. On les mixe, on met de l'appareil un petit peu comme on disait tout à l'heure, on passe ça au four au bain-marie et on a un, je sais pas
un,
le
comme un pain de
voilà un pain de foie. On peut faire des boulettes, on peut faire plein de choses.
D'ailleurs là c'est peut-être une question plus pour Blandine. Quand on achète un poulet Blandine, il ne faut pas acheter les poulets prêts à cuire où il n'y a plus d'abats. Il faut acheter les poulets avec les abats, si possible.
C'est difficile à trouver.
Oui, c'est vrai qu'on n'en trouve pratiquement plus.
Mais
oui.
Moi, effectivement, je préfère, même s'il y a les pâtes, c'est génial, parce qu'on peut faire aussi, avec les pâtes et le cou, des bouillons formidables.
Oui, et les pâtes, d'ailleurs, dans la cuisine chinoise, d'ailleurs, notamment cantonaise, ou dans la cuisine thaïlandaise, les pâtes, c'est-à-dire on parle vraiment des pâtes, la partie un peu palmée, on mange ça, c'est délicieux.
En Italie, on fait une salade avec, qui s'appelle Nervetti, et c'est une salade avec toutes ces parties cartilagineuses, c'est vraiment bien.
C'est délicieux voilà. Ça, cette partie-là.
Et je vais aller encore plus loin, quand on achète le poulet ou la pièce de viande du dimanche, il ne faut pas hésiter à choisir peut-être un peu plus gros. À préméditer en fait ces restes. Et,
oui, parce que j'avais envie de vous dire, moi chez moi il n'y a jamais de reste. Hein, non, mais c'est vrai, vous parlez de reste. Donc ça veut dire qu'il faut, il faut anticiper le fait qu'il va y avoir des restes et de prendre plus large.
Pourquoi pas, on se fait plaisir.
Voilà. Ouais. C'est une stratégie.
Oui, puis si on trouve un bon produit, autant en acheter un petit peu plus et puis en profiter pour le décliner tout au long de la semaine.
Un bon poulet de bonne qualité, qu'il soit labellisé ou pas, ça dépend si vous connaissez votre producteur, il va moins perdre en eau. Vous allez peut-être le payer plus cher au kilo, mais vous aurez beaucoup plus dans votre plat ou votre assiette.
Oui, à la cuisson, il va se tenir en poids.
Tout à fait, alors que certains poulets, malheureusement, qu'on peut trouver en supermarché, dans les barquettes sous plastique, etc., vous les cuisez, ils ne valent pas cher au kilo, mais vous perdez énormément d'eau.
Oui, c'est une fausse économie.
Souvent, ils ont été un petit peu dopés pour être gonflé.
Oui, oui.
Et au final, au prix au kilo, vous ne vous y retrouvez pas du tout.
Oui, et puis il y a même des pays, on voit des vidéos là, un peu virales sur Internet, on voit les gens injecter de l'eau dans les blancs et dans les cuisses des poulets.
Alors, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a un principe industriel, effectivement, mais c'est un petit peu caricaturé, mais l'effet est le même. Le résultat
est
le
même. Le business agroalimentaire, c'est terrifiant.
Mmh. Ouais. Privilégions les circuits courts.
Donc on évite les poulets pack, qui veut dire prêt à cuire, qui n'ont plus d'abattis, pratiquement plus rien, c'est-à-dire c'est juste le poulet prêt à mettre dans le four.
Après, il y a quand même une réalité qui est économique. Les gens achètent un prix, tout le monde n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller acheter un poulet chez les jumeaux.
Non, bien sûr.
Voyez, donc il y a un moment donné, il y a une réalité économique qu'il faut prendre.
Oui, mais ce que dit Tania est vrai.
J'avais fait l'exercice en achetant un poulet qui avait vraiment un prix plus élevé qu'en supermarché le dimanche. En déclinant chaque jour pour 4 personnes, on arrivait à faire au moins un repas par jour à base de ce fameux poulet du dimanche, donc du dimanche au jeudi, et ça coûtait moins de 2 euros par personne.
Oui.
Donc
c'est-à-dire que vous le mangez rôti une première fois.
Oui.
Ensuite.
Alors avec le bouillon, on va se faire une petite soupe, un bouillon avec des vermicelles. Mmh. On va faire un soir, on avait fait une salade lentilles, reste de blanc de poulet, pousse d'épinards, noix caramélisées. On a un plat tout à fait correct. On pouvait faire, je sais plus exactement, mais je crois que j'en ai fait des boulettes. Et puis vraiment avec la fin des fins des restes, voilà, des pâtes où dans lesquelles on va mettre, moi j'appelle ça le fourzitou, comme dans la fameuse série là, à la fin de la semaine. semaine, on fait des pâtes, on met les petits restes de poulet, on les a fait cuire avec le reste de bouillon, du coup on a le goût du poulet, et puis moi il me restait quelques carottes, j'avais coupé des carottes et j'avais fait un appareil, j'avais mis ça au four comme ça, et on a un gratin super bon qui nourrit et qui a encore du poulet le jeudi ou le vendredi.
Oui, parce qu'en plus ces poulets-là rassasient plus
oui,
vite.
La chair est plus nutritive. Voilà.
Mais ce que je veux dire aussi, c'est que même les poulets label rouge n'ont pas forcément les abats dedans. Même on rarement
oui,
les.
Oui, alors il y a les poulets pack prêts à cuire, donc il y a les poulets effilés où là il y a les, ils sont vidés, mais il y a quand même les abats à l'intérieur.
Voilà, il y a le foie, le cœur.
Et le poulet dont j'ai oublié le nom, mais qui lui est non vidé avec les viscères.
Poulet fermier qui en général vient directement de chez un producteur.
Ouais, le poulet, on appelle ça le poulet saigné, voilà, ça vient de me revenir, oui. C'est le poulet qui est juste saigné. Voilà. Oui. Il est saigné, plumé, mais il y a effectivement les viscères à l'intérieur. Alors, Tania, vous parliez de faire des bouillons avec les restes de carcasse. Là, je reviens un peu dans votre domaine qui est le domaine diététique. Le bouillon, c'est réputé très détox, c'est-à-dire que ça permet de nourrir un petit peu, ça apporte des nutriments, quelques calories, mais...
Oui.
Ça, je vais reprendre un terme, ça va peut-être vous faire sourire encore, mais ça draine quand même un peu le bouillon.
Alors, pourquoi le bouillon a cette image-là? En fait, tout simplement parce que vous vous hydratez. Le bouillon, c'est du liquide, c'est de l'eau qui va être aromatisée avec les choses que vous avez mis dedans pour le faire. Donc, soit un bouillon de poulet, un bouillon de légumes, un bouillon de bœuf, un bouillon avec de l'agneau, avec plein de choses. Et puis, donc, vous allez vous hydrater. Soit vous le buvez tel quel, quand on n'a vraiment pas faim, qu'on a eu des repas excessifs en amont. On a juste envie de boire, mais on a envie de boire peut-être quelque chose de chaud. On a la flemme, clairement, de se faire une soupe. Donc, on va juste boire un petit peu de bouillon. Si on a un tout petit peu faim, on va y rajouter soit quelques légumes en petits tronçons ou râpés dedans pour que ça cuise vite, soit effectivement quelques petites pâtes ou... j'aime bien les toutes petites pâtes italiennes, là, vous savez, en forme de grain de riz. Voilà, ça va vous suffire pour le soir. Donc, c'est hydratant, il y a des minéraux dedans, donc c'est intéressant. Et en fonction des choses qui étaient dans votre casserole quand vous avez fait bouillir pour faire votre bouillon, vous avez aussi des minéraux, des vitamines. On a certaines vitamines qui sont hydrosolubles, qui vont
se... dire toutes les bonnes choses, tous les bons nutriments qui sont pas restés dans la chair, qui sont on les dilue dans un bouillon et comme
fait,
ça
fait une infusion tout
on
simplement.
On ne gâche rien et au niveau de l'aliment et au niveau des nutriments. Et
voilà, donc on a le goût, on a des minéraux, on a certaines vitamines. Si on avait mis des légumes dans l'eau qui bouillait avec le poulet ou la viande, on a la vitamine C, elle est hydrosoluble, elle se solubilise dans l'eau.
Lordine voulait rebondir sur ce que
et d'ailleurs autrefois on donnait ça aux enfants rachitiques parce que justement ça nourrit des enfants qui n'avaient pas envie de manger, ou on leur donnait ça parce que ça, il y a plein de nutriments.
C'est un minimum vital.
Il y a une mode qui revient. C'est la, on en parlait il y a pas longtemps avec Philippe. C'est la mode des établissements qu'on appelle des bouillons. Fin 19e, oui. Début 20e, oui. Les bouillons, on allait pour y manger justement du bouillon. C'est les gens qui n'avaient pas les moyens de s'acheter de la viande.
Voilà, on n'a pas les moyens de s'acheter de la viande. Donc on a le goût de la viande qui a mijoté dans l'eau. Donc on boit de l'eau, mais avec ce fameux goût de viande ou de poisson quand on fait un fumet de poisson.
Alors, j'aimerais ajouter que le mot restaurant, au départ, veut dire restaurer.
Se restaurer, c'était les bouillons.
On n'y allait pas
restaurant,
par gourmandise.
Voilà. Dans ces bouillons, on mangeait des bouillons restaurant.
Parce que souvent, les appartements, il n'y avait pas de cuisine, donc c'était obligé de manger à l'extérieur.
Ce qu'on connaît sous le nom de restaurant aujourd'hui, Blandine, je crois qu'à l'époque, ça s'appelait des traiteurs.
Peut-être ça a commencé comme ça, oui.
Il me semble. Hein, les traiteurs avaient le droit de vendre des plats cuisiniers, les bouillons n'avaient le droit de vendre que du bouillon.
Oui, oui, oui.
Et sont devenus restaurants parce que c'était des bouillons restaurants qui restauraient
l'organisme. Et le bouillon n'est pas toujours triste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le bouillon de poulet, le bouillon de bœuf, etc. On peut s'amuser, on peut partir sur des notes asiatiques avec de la citronnelle, du gingembre, du citron vert, du galanga, enfin plein de choses. Notamment, on a des grands chefs étoilés qui font des livres sur les bouillons. Voilà, il n'y a pas que le bouillon poulet, carottes, oignons plantés de clous de girofle.
De quand on est malade, oui, Blandine.
Alors, je voudrais juste dire, je crois que Tania est totalement d'accord avec moi, quand on parle de bouillon, c'est du bouillon qu'on fait soi-même. pas les petits cubes ou les, d'accord?
On ne parle pas d'ersatz de bouillon, voilà, qui sont des cubes qui sont à 90% du sel, voilà, et le reste sel. Du ouais. faux goût.
De l'arôme, ouais,
de l'arôme artificiel. C'est pas du tout la même chose et ça n'aura absolument pas le même effet.
Alors Manuel, vous avez trouvé toute une série de régimes détox qu'on va évoquer.
Ah oui, j'ai beaucoup investigué, Philippe, j'ai beaucoup investigué et j'ai envie de demander à Tania si c'est si ces régimes sont détox ou intox. Alors déjà, bah, on en a parlé un petit peu, vous avez déjà répondu, hein, le régime jus de citron, donc intox, détox.
Ah, c'est pas un régime, encore une fois, c'est un moyen de réveiller son organisme, effectivement, si on n'a pas d'acidité au préalable.
Et courte durée.
Voilà.
Alors le régime, enfin pas le régime, on va parler de la détox monodiète, c'est-à-dire je mange que des fruits ou que des légumes ou que des légumineuses ou que des feuilles.
Alors, la monodiète, si on le fait un jour ou deux, n'aura pas d'impact sur notre santé. Si on le fait sur du moyen terme ou sur du long terme, c'est effectivement absolument pas intéressant pour l'organisme parce que nous sommes des omnivores, on a besoin de manger de tout. Et quand on se focalise sur un seul groupe d'aliments ou un seul aliment, on se met à risque de carence et surtout à risque de troubles alimentaires, troubles du comportement alimentaire, parce que forcément il va nous manquer des choses, donc on va avoir envie d'aller vers ce qui nous manque et on est frustré et donc c'est pas du tout intéressant.
D'accord. Alors une autre technique avec Philippe, on pratique ça quand on met nos culottes en peau de bête, hein, on fait la technique paléo.
Alors,
la paléo, c'est quoi?
Alors, le régime paléo, si on prend le vrai régime paléo, hein,
c'est
pas
pour paléolithique,
celui,
hein, voilà, on précise, ouais.
Le vrai régime à la base, c'est de la viande crue, des légumes crus et des fruits qu'on va cueillir nous-mêmes. C'était le chasseur-cueilleur.
On n'a pas encore inventé le feu à l'époque, c'est ça?
C'est ça. Chasse-cueillette. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne passe pas notre journée à courir après notre nourriture.
Ah oui, donc on n'élimine pas.
Nous n'avons absolument pas besoin de cela. Nous avons de quoi faire cuire nos aliments pour limiter les risques d'intoxication alimentaire. Donc, c'est absolument pas intéressant. Si vraiment vous aimez la viande crue, de temps en temps, vous faites un tartare ou vous faites un poisson cru, mais au quotidien, ça n'a aucun intérêt.
D'accord. Alors, autre technique, est-ce que c'est intox ou détox? La technique acide-base. Donc là, on mange des aliments en fonction de leur pH, hein, c'est ça?
Alors, si on part sur ce principe-là, physiologiquement, on va dire qu'il y a du vrai et il y a du faux. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, après des excès, je parle toujours du sujet du jour, on a dans les viandes, dans les charcuteries, on a beaucoup d'acidifiants. Ce sont des aliments que l'on appelle acidifiants. Et du coup, quand on a mangé toutes ces choses en excès, c'est vrai que notre équilibre acido-basique, donc acide-base dans le corps, est mal en point. Il est plutôt du côté acide que du côté basique. Donc on va plutôt favoriser, effectivement, en post-fête, des aliments qui vont nous permettre d'alcaliniser notre organisme, donc de rééquilibrer notre balance. Après, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête avec des choses techniques. Oui. L'idée, c'est quoi? C'est du bon sens, c'est de manger plus de légumes, manger moins lourd, moins de viande, moins de choses carnées et de poissons, en tout cas de protéines animales, pour effectivement se rééquilibrer tout simplement.
Oui, et puis pour être pratique, un régime alimentaire, il doit être simple aussi, il doit être...
Oui, oui.
Un dernier pour la route. Alors celui-là, en plus, j'ai eu un fou rire quand je l'ai découvert. Hein. Ça, c'est pour les.
Tu peux avoir la même chose.
Ça c'est la détox branchée. C'est le régime pégane. Alors c'est un mix de paléo et de vegan. Comment ça marche?
Alors, écoutez, celui-là,
qu'on alterne,
je ne connaissais pas.
On alterne des périodes paléo et des périodes véganes. Donc, on fait le grand écart.
Alors, on fait totalement le grand écart, sachant que les véganes, c'est aucun produit d'origine animale, même pour s'habiller, d'accord? Pas uniquement pour manger.
Mais là, on parle de manger.
Alors, du coup, je vois pas trop l'intérêt de passer d'un extrême à un autre.
Bien. Ben voilà, au moins ils sont habillés pour l'hiver en parlant de vêtements. Merci à Blandine Vier d'avoir été avec nous ce matin. Merci à Tania Patchev.
On rappelle en deux secondes le livre de Blandine qui fait un carton, qui est la réédition des recettes de bébé avec Sophie la girafe cette année, hein, réédition.
C'est un partenariat, oui.
Ouais, aux éditions Marabout.
Pour conclure, essayez juste de retenir que toute l'année et pas seulement après les fêtes, utilisez peut-être la proposition que je vous fais des 3 S, c'est-à-dire s'hydrater, s'écouter et savourer.
Et si on veut vous joindre, Tania, comment on fait?
Eh bien, on peut me contacter via ma page Facebook ou sur mon téléphone.
Donc, Tania Patchef, P-A-C-H-E-2-F.
Voilà.
De toute façon, on rappellera les coordonnées de tout le monde sur la page podcast de l'émission.
Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.
Beurrefm,
c'est ça.
Et quand tu chantes, j'oublie tout, je m'envole.
C'est une crêpelle négo dans ma bras.
Et vous de ma bras, oui, vous de ma bras.
Habib, tu m'as colmini, je dini. À la barre, qui me dit, ouais, belkini. Hey, yeah.
Bali 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 bali
bali bali bali bali bali bali
bali bali bali bali bali bali bali
bali bali.
Voy a negar.
La 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 la.
Et rien.